Bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième jeudi du mois, comme vous le savez, tous les troisièmes jeudis du mois, le Grémos nous offre une descente dans l'étude du paysage historique stéphanois. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur le colloque qui a eu lieu à la fin de novembre 2013, un colloque autour de penser et agir face à la crise des années 1968. Au micro, Maurice Bedouin, aux manettes, Frédéric Barré et Antoine Vernet, et sous l'œil bienveillant de Lionel, évidemment. Alors, je reviens sur notre émission qui, en fait, a présenté déjà précédemment à deux reprises des extraits de ce colloque de fin novembre 2013. Souvenez-vous, en décembre dernier, nous avions eu les interventions de Jean-Paul Bentière et de Jean-Paul Martin. Alors, revenons sur le titre de cette journée d'études, « Penser et agir face à la crise dans les années 1968 », avec pour sous-titre « Les luttes ouvrières dans le bassin stéphanois 1963-1984 ». Dans ce titre, il y a le mot « crise », la crise dans les années 1968. Et tout au long de cette journée, le mot de crise a été réutilisé avec toutefois une précaution qui nous a été apportée par Serge Proust à propos de l'utilisation de ce mot. Serge Proust, qui est au centre Max Weber, qui est un sociologue, a attiré notre attention sur le fait qu'une crise qui dure depuis 40 ans n'est plus une crise. Certes, les militants des années 1970 ont vécu cette période comme une crise, voire sans doute comme une crise classique du capitalisme. Une crise de surproduction et évidemment à ce type de crise depuis 150 ans le monde ouvrier a apporté des réponses classiques. Voilà une manière de voir les choses, mais Serge Proust a bien montré que tout de même si ça dure depuis 40 ans ce n'est plus une crise. Alors il faut trouver un autre mot. Alors qu'est-ce qu'il faut trouver? Peut-on parler d'une restructuration du tissu industriel du bassin stéphanois? Peut-on dire qu'il y a un nouveau capitalisme qui est en train de se mettre en place? Ou bien alors faut-il employer le mot d'une nouvelle révolution industrielle? Bref, ce n'est pas si simple que ça. Aussi attirer l'attention sur le fait que le terme de crise peut paraître singulièrement à côté des réalités, car enfin, on nous a appris sur les bancs du lycée que pendant cette période des années 1954-1974, un terme avait été créé, c'est celui des 30 glorieuses. Je vous rappelle que pendant cette période des 30 glorieuses, on n'employait pas ce terme de 30 glorieuses. C'est un terme... C'est un peu comme le terme de belle époque qui n'était pas utilisé quand c'était la belle époque. Alors, le mot de 30 glorieuses, c'est une construction politique, nous a dit Gilles Richard, qui est extrêmement savante et qui a été pensée par Jean Fourastier quand Jean Fourastier a écrit son livre en 1979 intitulé « Les 30 glorieuses ». En fait, Jean Fourastier était un ami très proche de Raymond Barre. Et son livre se terminait par un hymne à la politique de Raymond Barre. Et Jean Fourastier a été un des hommes clés du commissariat au plan. Voilà. Alors, toute notre petite heure passée ensemble, nous allons l'orchestrer avec, pourquoi pas, des musiques de l'époque. Et en voici une.
Même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
Chacun de vous est concerné, une chanson de mai 68. Alors, intervention qui va suivre est celle d'Alban Graziotin. Alban Graziotin est un des membres fondateurs du Grémos. Tout à l'heure, je n'ai pas rappelé la signification du mot Grémos. Il s'agit du groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. On a bien dit les mémoires, car il y a différentes mémoires, pas seulement les mémoires écrites, pas seulement les mémoires orales, mais également, pourquoi pas, les mémoires musicales. Alors, Alban Graziotin est un doctorant dont la thèse portera sur le monde ouvrier stéphanois pendant la période des années 1963-1982. Il a beaucoup travaillé jusqu'à présent sur les archives déposées aux archives départementales de la Loire, pour faire un travail extrêmement ingrat de recensement des conflits. Et son intervention, elle est destinée précisément à montrer que pendant la période 1963-82, les conflits se sont succédés à haute dose. Et les statistiques dont il va vous faire part, là maintenant, montrent que dans le secteur privé, hors mai-juin 68, parce qu'à ce moment-là, si on intègre mai-juin 68, on fait sauter les résultats. De 1963 à 1979, il y a eu 878 conflits recensés dans le bassin stéphanois. Et le paroxysme s'est déroulé en 1976 avec 80 conflits. Alors, laissons la parole à Alban Graziotin.
Donc je pense que je vais apporter certains points d'analyse, mais laisser aussi d'autres points dans l'ombre, malheureusement, parce que vous allez constater que ce travail, en fait, est très long et fastidieux à mener. Donc pour commencer, je vais succinctement présenter les sources. Donc j'ai travaillé sur les archives préfectorales, donc des dizaines de cartons aux archives départementales qui sont soumis à dérogation et qui ont mis un temps très très important selon moi pour m'être accordé, c'est-à-dire un an et demi, ce qui a largement grevé mon travail. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi enfin à finir de dépouiller ces archives-là, et c'est à partir d'elles notamment que j'ai pu constituer une chronologie. Les archives syndicales également, donc à l'Institut d'Histoire Sociale CGT, mais également à l'USTM CGT, qui possède un important fonds documentaire qui n'est pas encore versé à l'IHS, mais qu'il mériterait de l'être. La presse, qui est bien souvent complémentaire et en même temps issue des archives syndicales, je vais m'expliquer. Tout simplement, la presse reprend généralement les communiqués des syndicats. Communiqués des syndicats qui sont retranscrits soit in extenso, soit par extrait, mais pas systématiquement cités. Donc moi, je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'articles de presse étaient en fait des articles tirés de communiqués syndicaux. Et cette presse, qui est largement consultée par les renseignements généraux, qui constitue à partir de là un corpus classé par entreprise. Donc on voit tout de suite le problème qui se pose, c'est qu'on est dans une sorte de cercle où ne sont visibilisés, on va dire, que certains conflits et pas tous les conflits qui peuvent exister. Donc le corpus de conflits sur lequel j'ai travaillé, c'est un corpus minimal, on va dire. Et la bibliographie du bassin stéphanois sur ces années-là reste très mince, si ce n'est l'ouvrage de Messier-Ritier-Yon sur 150 ans de lutte ouvrière dans la Loire. Il n'existe quasiment aucun travail sur les luttes ouvrières dans le bassin stéphanois dans ces années-là, ce qui pose notamment la question de la place et du rôle des universitaires dans l'élaboration d'une mémoire ouvrière, dans le sens où l'étudiant qui veut se lancer dans ces études-là va trouver un nombre de travaux, excusez-moi, innombrables sur Peugeot, par exemple, Sochaux, mais ne va presque pas trouver d'archives et de bibliographies sur des zones comme le bassin stéphanois. Donc les critères que j'ai utilisés sont assez restreints, c'est-à-dire uniquement les grèves dans le secteur privé et hors BTP, puisque le bâtiment me posait de gros problèmes de source, puisque comme situé dans des chantiers à travers les villes, les renseignements généraux arrivaient très difficilement à compiler les informations concernant le BTP. J'ai laissé de côté aussi les grèves de la SNCF, de DFGDF, de la MAS, des mines, de casinos et des petits commerces, tout en sachant très bien que c'était quand même des éléments importants, voire moteurs dans sur certains aspects, mais qui constituaient, on va dire, une frange limitée du nombre d'entreprises par rapport au nombre d'entreprises dans le bassin stéphanois, notamment dans la métallurgie. Donc mon corpus de sources sera surtout centré sur la métallurgie mécanique générale, le textile et les industries diverses, comme par exemple l'électronique très faiblement implantée dans le bassin stéphanois. Donc dans les données globales que je vais vous donner, il n'y aura pas mai-juin 68, qui pose un énorme problème là aussi de compilation des données, puisque j'ai dépouillé les deux cartons réservés à mai-juin 68 par les services préfectoraux, et on se rend bien compte qu'ils n'arrivent pas du tout à saisir l'ampleur du phénomène. L'absence de travaux ultérieurs, l'absence de mémoire, l'absence de témoignage pose un certain nombre de problèmes pour arriver à comprendre l'ampleur de la grève de mai-juin 68 dans le bassin stéphanois, même si j'ai quelques indices et même si on arrive à dire globalement qu'il y avait environ 40 000 grévistes dans la métallurgie dans le bassin stéphanois jusqu'au 20 juin. Mais il y avait aussi des entreprises qui ont continué de travailler pendant ces années-là. J'ai rencontré certains acteurs de l'époque qui me disaient que leur entreprise continuait à travailler, même si, bien sûr, ça reste les petites entreprises, donc tout ce petit maillage stéphanois. Je n'ai pas pris en compte les questions des grèves de mensuels. Elles existent, même si elles ne sont pas très, très développées en volume global. Et même si ça pose des problèmes aussi quant aux qualifications, avec cette question de la mensualisation des ouvriers dans les années 70. Les sources sont très succinctes sur les qualifications dans les entreprises, etc. D'autant plus que, comme vous le savez tous, il y avait des centaines d'entreprises dans le bassin stéphanois, et ce qui pose un problème incommensurable pour arriver à comprendre et à définir un petit peu les qualifications propres à chaque entreprise. Le cadre, ça va être le bassin stéphanois pur et dur, donc l'ancien bassin minier, c'est-à-dire de Rive-de-Gier à Saint-Chamond, de Saint-Étienne à à Firminy, Fraisse-Unieux. Et je suis monté quand même jusqu'à André-du-Boutéon, puisque un certain nombre d'entreprises vont s'implanter dans cette zone dans les années 70, avec cette question de décentralisation et puis surtout cette mise en place de zones industrielles, etc. Donc, ils vont faire un petit peu sortir les usines qui étaient complètement insérées dans le maillage urbain du bassin stéphanois, hors de ce cadre urbain, et vont créer des nouveaux territoires. J'ai pris en compte aussi toutes les questions de reconversion des mineurs et notamment reconversion de certaines zones industrielles comme la Talodière-Sorbier ou Roche-la-Molière, qui vont voir certaines entreprises s'implanter au début des années 70 et qui vont donner lieu là aussi à de nombreux conflits, conflits d'installation, etc. Et les critères, c'est tous les arrêts de travail que j'ai pu rencontrer, donc qu'ils durent une heure ou plusieurs mois, je les ai considérés comme des conflits du travail. Voilà. Le postulat, donc pour étudier, j'ai quelques postulats pour étudier et comprendre les grèves ouvrières, notamment dans un territoire industriel complexe et diversifié comme l'est le bassin stéphanois, même s'il y a une certaine homogénéité au niveau des industries, de la sous-traitance, etc. Il faut quand même avoir une vue d'ensemble pour comprendre un petit peu la dynamique des grèves dans le bassin. Donc pas simplement étudier les conflits les plus symboliques, qui sont souvent les plus médiatisés, mais qui ne sont peut-être pas forcément le fond et le cœur des grèves dans le bassin stéphanois. J'ai considéré par là que le nombre d'entreprises qui étaient touchées, que j'avais pu recenser, était un élément clé pour comprendre le phénomène des grèves dans le bassin stéphanois, et tout en gardant dans la tête que le bassin stéphanois n'est pas un isolat au milieu de la France et qu'il est en lien avec ce qui se passe au niveau national, voire international, et qu'il s'inscrit dans des grandes tendances nationales. Donc j'en arrive à 998 conflits. Et vous vous rendez compte que étudier 998 conflits écarte tout de suite l'idée d'en étudier un particulier pour essayer d'exprimer et de comprendre ce que pouvaient être les grèves dans le bassin stéphanois entre 1962 et 1982. Là, c'est pour 1962-1982. Donc 998 conflits. Bien entendu, dans ces conflits, une partie d'entre eux, une grande partie, sont des conflits qui durent moins de 24 heures la plupart du temps, mais qui sont quand même des conflits du travail. C'est pas parce qu'on arrête que quelques heures le travail qu'on ne doit pas considérer que ceci n'est pas une vraie grève ou un vrai conflit. Donc j'ai pris l'ensemble des conflits, 998 conflits hors journée d'action. Journées d'action qui sont innombrables, notamment dans les années 60, et qui donne lieu à des débrayages dans beaucoup d'entreprises qui sont complètement problématiques pour moi parce que je n'ai aucune liste, à part celle qui est fournie dans la presse, des entreprises en grève. Donc le chiffre global, en fait, exploserait au niveau des entreprises si on prenait vraiment en compte les conflits lors de ces journées d'action. Donc là, c'est hors journée d'action, donc je ne vais pas en parler, mais on les garde dans la tête. Qui fait environ 48 conflits en moyenne. Donc là, c'est une moyenne qui m'a permis juste de voir un petit peu les années qui pouvaient ressortir par rapport à cette moyenne. Hein. Les moyennes, on sait tous que ça peut poser des problèmes en fait et que ça rend abstrait un petit peu l'analyse. Mais 48 conflits en moyenne localisés dans des entreprises, ce qui veut dire que concrètement, on a quasiment des conflits tous les mois avec des pointes à certains moments. L'année la plus basse, mais là c'est aussi en relation avec par rapport aux sources que j'ai pu consulter, c'est l'année 1962, le début de mon enquête, et l'année la plus haute, c'est 1976 avec 80 conflits. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'année 1976 n'est peut-être pas forcément l'année qu'on s'attendait à retrouver, mais c'est bel et bien, pour les données que j'ai pu compiler, l'année où on retrouve le plus de conflits à un moment très intéressant, puisque c'est depuis un an ou deux une crise qui se généralise dans le bassin stéphanois, et c'est le signe que la plupart de ces conflits-là sont déjà des conflits défensifs face aux fermetures, etc. Les années qui connaissent le plus de conflits sont 1965, 67 et 69, pour la première partie de ma période. 1965, qui va connaître un nombre très intéressant de conflits et surtout une hausse du nombre d'entreprises en lutte, et des conflits qui vont commencer à porter dès le départ sur des questions à la fois de cadence, de travail, etc., mais en même temps des questions relatives au maintien de l'emploi dans le bassin stéphanois. Donc on peut d'ores et déjà dire que avec la grève des mineurs de 1963, qui va poser radicalement cette question de l'avenir du bassin stéphanois, se diffuse dans l'ensemble du bassin une crainte à la mesure de ce que peut représenter l'entreprise, les industries dans le bassin stéphanois, c'est-à-dire une perspective d'avenir qui devient de plus en plus noire, d'autant plus qu'on se dit que si les mines peuvent fermer, le reste des entreprises peuvent fermer aussi. Donc toutes les industries peuvent être menacées. Et je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être beaucoup plus approfondi. Ça va être la place et le poids de la fermeture des mines dans l'esprit, dans la psychologie collective dans le bassin stéphanois. Une étude qui mériterait un approfondissement très important et qui est difficile à mener, puisque c'est quelque chose quand même de très subjectif, mais qui doit s'ancrer dans les pensées des personnes de l'époque pour estimer que la crise est très importante et peut amener à terme la disparition d'autres industries. 1967, pareil, une année où là, on va avoir un certain nombre de conflits dans des petites boîtes, pas spécialement dans les grosses boîtes. Donc les grosses écuries dans le bassin stéphanois dans les années 60, ça va être les forges stéphanoises, la CAFL bien sûr, Marel, BSN à Rive-de-Gier, les entreprises comme Mavilor dans la vallée du Gier, un peu moins la vallée de l'Andenne qui est un peu moins présente dans les conflits dans cette période-là. 1968, donc n'apparaît pas, donc là c'est par rapport à ce que je vous ai dit au départ, mais il faut considérer que l'année 68 marque un nouveau départ des luttes dans le bassin stéphanois qui aboutit notamment en cette année 69 à une explosion des conflits, notamment durant l'hiver 1969 où un certain nombre d'entreprises à la fin de l'année vont connaître des grèves avec occupation d'usines très importantes et qui vont faire tache d'huile un petit peu. Donc ça va être des grèves à Manu France, grève qui va déclencher une répression patronale dans l'esprit du moins, puisqu'ils veulent licencier 1000 personnes quelques jours après le début de la grève pour faire rentrer tout le monde dans l'entreprise. Ça va être des conflits chez Vagéor, donc les constructions électromécaniques de Saint-Étienne, qui était aussi avenue Roche-Taillé. Ça va être des conflits, bien sûr, en 69, dans l'usine Peugeot, qui va connaître un de ses premiers grands conflits, et tout un tas de petits conflits comme ça qui vont jalonner cette année 69. Après, l'année 70 va être dans une certaine mesure assez calme, mais là on retrouve aussi des analyses au niveau national. 1971 dénote un regain d'activité au niveau national et on le retrouve complètement dans le bassin stéphanois, puisqu'à partir de 71 à 76, là on est dans l'acmé des luttes ouvrières dans le bassin stéphanois, avec des conflits qui dépassent largement la moyenne de 48 par année et des conflits qui là vont prendre un caractère beaucoup plus de type insubordination ouvrière pour la plupart, mais là encore mêlé au premier conflit concernant les fermetures d'usines, notamment des conflits entre 74 et 75 dans la zone de reconversion de la Talodière-Sorbier, où les principales entreprises qui avaient été installées au début des années, vers 1969-70, vont connaître dès le départ des grosses difficultés. Donc on a à la fois l'apparition d'un nouvel espace de lutte dans le bassin stéphanois, la zone de Molina-la-Chazotte, et en même temps, on va retrouver des premières interrogations sur cette question de la reconversion, oui, mais si c'est pour que nos entreprises ferment au bout d'un an ou deux, ou qu'elles commencent à licencier à tour de bras, ça pose un problème incommensurable encore. Et donc, on va retrouver à la fois, dans ces années 71-76, cette question d'insubordination ouvrière qui est présente, mais diffuse, pas partout, pas dans toutes les entreprises, et en même temps ces questions d'emploi. Donc pour ce qui est des entreprises avec des formes de lutte à caractère d'insubordination ouvrière, ce sera aussi des entreprises qui vont connaître la présence de gauchistes, et ce sera notamment le cas dans la vallée du Gier principalement, beaucoup moins dans la vallée de l'Andenne, un peu moins sur Saint-Étienne, mais surtout la vallée du Gier qui va connaître l'effort et la concentration de militants gauchistes, de militants maoïstes, la plus intense dans ces années-là. Et enfin, 1978-1979, deux années où, en fait, ce sont des luttes, la plupart du temps, complètement défensives contre la fermeture d'entreprises, avec des conflits majeurs, aussi bien dans le textile que dans la métallurgie. Donc en gros, 68-79, c'est quasi 70% de la période des grèves, de la masse globale des grèves. Donc on est là, on retrouve complètement la chronologie nationale qui a été proposée par main d'historien. Et le bassin stéphanois, à ce niveau-là, ne se, singularise que parce qu'il y a une prégnance des conflits liés aux fermetures d'entreprises et aux licenciements. Et en 1980, on retombe au nombre de conflits de 1964. Donc on peut dire qu'on est dans une période qui commence à se clore. Et ça accrédite complètement la thèse à la fois de l'insubordination ouvrière, mais en même temps du poids de la crise dans l'arrêt de cette insubordination ouvrière. Donc 63-79, là, c'est un petit moyen pareil qui ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où, si j'avais pu étudier, j'ai pu mettre le nez dans les archives des années 50, je me rends compte que les années 50 sont beaucoup moins chargées en conflits. Donc ça accrédite encore plus l'idée que 63-79 est la période d'acmé des luttes ouvrières dans le bassin stéphanois pour la période considérée. Donc en gros, j'ai répertorié 232 entreprises touchées par des conflits durant ces années. Mais en fait, il n'y en a que 34 environ qui sont touchées par des conflits chaque année, en moyenne bien sûr. Mais hors mai-juin, les années qui sont le plus touchées, c'est 69 et 71 à 79, où là, on est au-dessus de cette moyenne-là. Donc, ça a encore accrédité l'idée l'acmé des luttes durant cette décennie-ci. Et ces conflits durent en moyenne 18 jours. Mais entre 76 et 82, la tendance part à la hausse avec des pointes à plus de 56 jours. Mais là, c'est des moyennes globales encore, puisque certains conflits, comme je pense J.B. Martin, va durer quasiment 3 ans. Des conflits autour du textile dans des entreprises à majorité de main-d'œuvre de femmes vont durer un an, Juste à Coudre, Villard-d'Oron, etc., etc. Donc c'est tout un tas de conflits qui vont gonfler un petit peu la durée des moyennes de ces conflits, mais on est quand même dans une période où les conflits se radicalisent dans le sens où ils durent de plus en plus longtemps. Donc les femmes, comme je l'ai dit, on les retrouve la plupart du temps dans les entreprises de textile, notamment dans certaines entreprises, donc les plus importantes, certes, Gunther Royon, Jurine au Chambon-Feugerolles, Gunther Royon à Saint-Étienne, Justa Coudre, Oumeil à Saint-Étienne, Villard-d'Oron qui déménage d'ailleurs de Saint-Étienne pour aller sur Sorbiolat-Alaudière dans les années 70. Donc c'est certaines entreprises qui sont ciblées pour l'activité de grève de femmes ou de grève d'ouvrières. Là, c'est une autre question. Et ces grèves-là, très bien, ne sont pas du tout le cas dans d'autres entreprises. Donc, il faut se garder de dire que dans toutes les entreprises textiles, etc., il y avait des luttes. Non, j'ai eu plein de cas de fermeture d'entreprises où il ne se passe quasiment rien. C'est plus la résignation qui joue qu'autre chose. Les jeunes, on les retrouve notamment dans les années 60, donc c'est la première génération du baby-boom. On les retrouve dans un certain nombre d'entreprises, notamment dans la vallée du Gier, où les jeunes sont bien mis en avant par les renseignements généraux, comme quoi ils poussent à la grève. Les immigrés, par contre, qui sont présents dans la plupart des grosses entreprises du bassin stéphanois, ne vont pas mener des luttes à part entière, comme on a pu le voir dans certaines autres entreprises en France. Et à part peut-être s'il y a une manipulation, entre guillemets, de groupes gauchistes. Je pense aux Aciéries du Furan en 74, où cette boîte à majorité d'immigrés va connaître un conflit assez important mené par des gauchistes. Mais selon les renseignements généraux, la plupart des immigrés vont quitter la boîte pendant l'entreprise, pendant la grève, pour aller se faire embaucher ailleurs. Les gauchistes, donc comme je l'ai dit, on les retrouve essentiellement dans la vallée du Gier, dans quelques entreprises du bassin de Saint-Étienne, très peu dans l'Ondem. Et là, on retrouve un petit peu une carte entre guillemets électorale, avec une Ondem beaucoup plus communiste, un parti communiste aussi qui est très implanté sur Saint-Étienne, et une zone de la vallée du Gier où la force du parti communiste est beaucoup plus lâche et où on voit aussi une activité intense du Parti socialiste unifié être menée. Donc les syndicats, bien sûr, CGT et CFDT en ligne de mire principalement, et notamment la CGT. Il y a très peu d'entreprises où il n'y a que la CFDT qui est présente. Donc là, c'est très intéressant d'étudier un petit peu comment se répartissent les rôles dans ces luttes-là et voir un petit peu les conflits entre syndicats qui peuvent naître dans ces années 70. Les partis, donc c'est le Parti communiste français et le Parti socialiste unifié que je retrouve le plus souvent, notamment le Parti communiste dans la vallée de l'Ondem et sur Saint-Étienne. J'ai presque fini. L'étatisation des luttes, on la retrouve complètement, dans le sens où la plupart des conflits à partir de 1974 mettent en avant d'une part le programme commun, d'autre part critiquent ouvertement la politique gouvernementale. Et dès que Michel Durafour est ministre du Travail, ça en rajoute une couche, si je peux dire, puisqu'on a une cible complètement privilégiée pour pouvoir étatiser les luttes ouvrières de cette période. Pour finir, je pourrais dire que grève et conflit pourraient être distingués dans le sens où les grèves, ce seront ces arrêts de travail collectifs, et les conflits, pardon, je me positionne dessus. Les conflits ne prennent pas spécialement l'aspect de grève pure et dure, mais seront des conflits qui vont porter sur ces questions d'emploi, donc des conflits qui vont durer des fois plusieurs mois et qui vont en fait être entrecoupés de périodes intenses d'activité gréviste et d'autres fois de périodes de travail. On le voit notamment à Manu France, où la lutte des Manu France est en fait hachée en plusieurs petites sous-parties, et on ne peut pas parler globalement d'une grève de Manu France, mais d'un conflit beaucoup plus généralisé avec cette question lancinante de l'emploi. Je vous remercie. Donc j'ai été très succinct et je ne suis pas rentré dans le détail. Vu le nombre de conflits qu'il y avait étudiés, je n'ai pas voulu en choisir un en particulier qui n'aurait été représentatif que de lui. Mon travail apportera certainement beaucoup plus de précision que ces quelques données que j'ai pu vous donner. C'était juste pour replacer un petit peu le cadre, et j'espère qu'on va pouvoir approfondir. Voilà.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début. Mobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère n'a que ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution, la révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. Libre, censié l'Odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre. Ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé la Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début. Toujours là, tenons le combat, ce n'est qu'un début. Nous avons le temps d'aller en prison, nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, ce n'est qu'un début, continuons le combat, ce n'est qu'un début, continuons le combat.
Vous êtes à l'écoute de l'émission du Grémos, le groupe de recherche et des études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Aujourd'hui, autour de la journée d'études qui a eu lieu fin mars 2013, penser et agir face à la crise dans les années 1968. À l'origine de cette journée d'études, une question qui était celle de vérifier la pertinence du travail de Xavier Vignat. Xavier Vignat est un enseignant de l'université de Dijon qui a bien voulu à la fois réfléchir à la réalisation de cette journée et nous a accompagnés tout au long des deux journées, la veille à travers une conférence qu'il a donnée à l'université et puis le jour même. Son ouvrage « L'insubordination ouvrière » place la question des années 68 dans un cadre d'ampleur nationale. 8 millions de grévistes, avec les OS, les immigrés, les étudiants, avec des pratiques de séquestration, avec des entreprises qui ont marqué les mémoires, par exemple les grèves du juin français, l'organisation des ouvriers chez LIP. C'est toute une remise en cause des systèmes de travail et de son organisation que Xavier Vignat nous propose. Alors, pour nous, la question était de savoir, est-ce que la région stéphanoise se coulait complètement à la fois dans les limites chronologiques des années 68, donc je disais des années 63-84, ou bien présentait-elle des singularités ? À l'instant, Albin Engraziatin vient de nous dire combien cette période a été une période agitée dans tous les types de secteurs de l'industrie stéphanoise. La thèse de Michel Zancarini est une thèse tout à fait originale et fort intéressante. Michel Zancarini, au contraire, de son côté, considère qu'il ne s'est pas passé grand-chose en 1968, et c'est vrai, parce que dans les usines stéphanoises, la CGT s'est efforcée la CGT et la CFDT se sont efforcés de contrôler les revendications ouvrières. En revanche, nous dit Michel Zancarini, c'est en 1973 que les affaires se sont organisées et qu'il y a eu un véritable déferlement des activités contestatrices. Je rappelle qui est Michel Zancarini-Fournel. Elle est professeure émérite en histoire contemporaine à l'université Claude Bernard de Lyon et elle est co-directrice de la revue Clio. Sa thèse portait sur un parcours de femme, réalité et représentation de 1880 à 1950. Elle a beaucoup travaillé sur le genre, elle a présenté une histoire du féminisme, elle a beaucoup travaillé sur 1968. Et son dernier ouvrage est un ouvrage qui est unanimement reconnu. Et il s'intitule « La France du temps présent de 1945 à 2005 » et qui est publié chez Belin. Alors, écoutons Michel Zancarini qui insiste tout à la fois sur cette année 1973 avec fermeture de Couriot 10 ans après la grève de 63, avec les grèves dans les lycées et les grèves à l'université, le 22 mars, la lutte contre la loi Debré, le MLAC, la grève de la faim des travailleurs immigrés dont nous avons parlé là, dans une émission du Grémos, et puis 44 jours de grève à Peugeot qui ont beaucoup marqué les esprits à Saint-Étienne.
Bonjour à tout le monde. Après 68, ce que les syndicats appelaient l'insubordination des travailleurs est un phénomène récurrent. Elle est partie prenante d'un processus de radicalisation d'un certain nombre d'acteurs et d'actrices sociaux qui tissent entre eux des points de convergence. Ouvriers, ouvrières, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, paysans, paysannes, jeunes, femmes, immigrés, se retrouvent épisodiquement donc au cours des conflits qui jalonnent la séquence historique. Comme tout le monde le sait, le bassin stéphanois est un territoire d'ancienne industrialisation et le printemps 73 que je vais étudier plus précisément s'ancre dans ce contexte général donc des années de contestation post-68. En effet, de mars à mai 73, on voit dans le bassin stéphanois et à Saint-Étienne en particulier des grèves et occupations d'usines métallurgiques, un mouvement lycéen et un mouvement étudiant, une grève de la faim des travailleurs immigrés pour les papiers et une lutte organisée pour l'avortement, à tel point qu'on pourrait qualifier le printemps 73 de 68 stéphanois du fait de cette diversité de mobilisation. Bien sûr, cette boutade métaphorique est un peu provocante. J'avais mis un point d'interrogation quand même au titre de ma communication qui n'est pas dans le programme. Donc remettez, s'il vous plaît, le point d'interrogation. Donc n'est pas complètement justifié. D'abord parce qu'il y a bel et bien eu un 68 stéphanois. J'ai identifié 4 formes paradoxales et spécifiques par rapport à la situation nationale. Alors cette comparaison, je l'ai faite à partir des archives que j'ai consultées sur le plan national et ailleurs. Et aussi, je vous le signale, sur le site des archives municipales de Saint-Étienne, il y a un très beau récit de la période sur mai-juin 68. Alors, quelles sont ces 4 quatre formes paradoxales, on peut dire spécifiques à Saint-Étienne, en mai-juin 68. Premièrement, le 6 mai 68, l'AGES, qui est la filiale locale de l'UNEF, tenue par des membres de l'Union des étudiants communistes, refuse de relayer l'appel de l'UNEF nationale à faire grève et à manifester contre la répression policière. Mais le lendemain, les étudiants réunis en AG votent la grève, désavouant ainsi leur direction syndicale. Deuxièmement, le 13 mai 68, après la plus grande manifestation de rue à la Libération qu'il y a eu à Saint-Étienne, le discours prononcé au nom de tous les syndicats par le secrétaire de la FEN a des accents révolutionnaires à l'encontre des positions de la CGT largement majoritaire dans le bassin. Troisième paradoxe, la reprise du travail des usines métallurgiques est tardive par rapport à la situation nationale et entre autres par rapport à l'appel de la Fédération CGT de la métallurgie qui avait appelé à reprendre le travail le 10 juin, premier jour de la campagne électorale. Elle se fait dans la Loire entre le 14 juin et le 26 juin. Enfin, dernière spécificité d'ordre politique, mais qu'il ne faut pas négliger, il n'y a aucun changement après les élections, contrairement à ce qui s'est passé ailleurs. Le député maire de Saint-Étienne, le centriste Michel Durafour, pas encore ministre du Travail, est réélu et il avait ouvert les cantines scolaires aux enfants des grévistes et avait salué la modération des comités de grève. Lucienne Wirth est aussi réélue et, contrairement à ce qui n'a pas été dit dans les hommages funèbres récents, à la différence de sa position extrémiste en 1958, il est relativement modéré en 68, puisque, par exemple, il ne fait pas appel à la création d'un CDR local, contrairement à ce qui s'est fait, donc, à la différence de Lyon, Marseille ou dans les villes du nord de la France. Donc voilà, il y a bien eu un 68 stéphanois, je rassure tout le monde, et particulièrement ceux qui y étaient, avec ses caractères originaux. Mais examiner la conjoncture de 73 à l'aune de 68, c'est simplement montrer qu'il y a en 73 une co-construction des luttes dans des secteurs différents, parfois intersectionnelle, alors même que, événement symbolique de la crise économique et sociale locale, le dernier puits de mine stéphanois, le puits Couriot, ferme 10 ans après la grande grève, en apparence victorieuse, de 1963. Cependant, ce que je vais essayer de démontrer, c'est ce que nous avons appelé avec Xavier Vignat les rencontres improbables, caractéristiques de ces années 68, et qui sont prônées ici par les dirigeants de l'UDCFDT, dont on a parlé tout à l'heure, je vais les citer. La convergence des luttes des lycéens et étudiants avec les travailleurs contre le système capitaliste, fin de citation. Donc militants de la CFDT, du PSU et de différents groupes d'extrême gauche. Mon étude s'appuie donc sur les archives nationales, rapports des préfets, des renseignements généraux, des dossiers de la BDIC dans le fonds mémoire de 68, avec donc les papiers des cahiers de mai dont une équipe a suivi la grève à Peugeot et qui a fait 4 cahiers très fournis sur le récit heure par heure de cette grève, les papiers Bouziri sur la grève des travailleurs immigrés, le fonds de l'avocat De Felice qui a défendu les lycéens, ainsi que sur la presse nationale et la presse locale. Et je confirmerai ce qui a été dit tout à l'heure, on trouve énormément de choses dans la tribune Le Progrès de l'époque où tous les communiqués sont répercutés. Tribune Le Progrès diffusait alors à 93 000 exemplaires, ce qui veut dire 2 ou 3 fois plus de lecteurs. Hein. Donc ça veut dire aussi quelque chose sur comment circulait l'information. Alors, il me reste combien, 10 minutes, même pas. Bon, alors je vais aller vite. Donc d'abord, il y a une grève des lycéens et des étudiants. Donc cette grève, c'est contre la loi Debré, qui réformait le service militaire en supprimant les sursis. Elle touche Saint-Étienne très tôt, le 7 mars. Elle a commencé le 6 mars à Lille, donc vous voyez, 2 jours après seulement. Le mouvement prend très vite la forme qu'il a ailleurs, c'est-à-dire ça débute par les lycées techniques. Claude Lebois à Saint-Chamond, Jacob Holzer Firmini, La Métard à Saint-Étienne. Le 22 mars, date symbolique, 5000 lycéens sont dans la rue contre la loi Debré. Les étudiants sont aussi en grève, suppression du DEUG, etc. Et la grève continue plus longuement avec le groupe qui s'appelle Ceux du Technique, avec un mot d'ordre, le CET, c'est déjà l'usine. Donc, le peuple lycéen, comme l'appelait Vincent, est dans la rue en 73, et le contexte stéphanois est semblable à la situation nationale. Rivalité entre l'UNCAL et les comités de lutte lycéens pour se battre sur les formes et directions du mouvement. Je vous passe le détail. Mais avec certaines formes spécifiques qu'il faut citer, les contre-cours dans la rue des élèves des classes préparatoires en direction de la population et les débats devant les portes des usines et sur les marchés. Donc il y a un lien construit par un petit nombre de lycéens, mais quand même, avec le comité de soutien à la grève de la faim des travailleurs immigrés pour les papiers. Je passerai, c'est mon deuxième point. Grève de la faim des travailleurs immigrés, donc, c'est une résistance aux premières mesures d'expulsion, déjà, prises à l'automne 72, avec l'application des circulaires Marcelin Fontanet, exigeant contrat de travail et logement pour obtenir un titre de séjour. Ces grèves de la faim débutent à Valence et elles se répandent en France, Lille, Montpellier, Marseille, Nîmes, Perpignan, Strasbourg, Mulhouse, Nice, Toulon, Lyon, Saint-Étienne, un peu tardivement par rapport à tout cela, en avril. Alors, il y a grève de la faim en l'église Saint-Edmond et cet appel est soutenu par un comité de soutien hétéroclite constitué par la CFDT, Échange et Promotion, la LICRA, le PSU, la Ligue communiste et les comités de lutte. Une manifestation, le préfet refuse une audience à ce comité, ne veut recevoir que certains membres sérieux de ce comité, sérieux je mets des guillemets, à ce comité de lutte. Hein. Et donc ça dure beaucoup. Les grévistes de la faim sont devenus 51. Ce sont essentiellement des, je cite, travailleurs tunisiens. Il y a un Marocain, un Algérien. Ils sont installés donc à l'église Saint-Edmond. Et une nouvelle manifestation le 27 avril est un peu intéressante. Elle réunit 600 personnes de la place du peuple à la place Marengo. Alors, quand on est stéphanoise, et je suis stéphanoise, si vous voulez, évidemment, on ne se rend pas compte, mais quand on part un peu à l'extérieur, on se rend compte que les places sont assez près et que les trajets sont assez identiques. Hein. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, deux mots d'ordre. Un mot d'ordre lycéen, chaud, 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 le printemps sera chaud. Et un autre mot d'ordre qui m'intéresse, Peugeot, Jacquemart, immigré, même combat. Donc, si vous voulez, on fait ici le lien avec les autres conflits, au moins dans les mots d'ordre. Ça se passe un peu vigoureusement. Les CRS interviennent violemment parce que certains membres de la manifestation avaient monté une banderole sur la terrasse de la préfecture. Donc, le responsable CFDT, Pierre Héritier, est blessé. Huguette Bouchardot est arrêtée. Elle était au PSU local à l'époque. Le mouvement traîne en longueur et pour une fois, eh bien, le changement est venu de Raymond Marcelin parce qu'il est un peu embêté avec ses grèves de la faim dans un premier temps. Et donc, il fait une circulaire le 18 mai 73 au préfet qui conseille au préfet de discuter avec les associations et les prêtres qui soutiennent les grévistes. Donc, le préfet de la Loire, qui par ailleurs s'est montré parfois plus conciliant sur d'autres terrains, accepte de recevoir le comité de soutien. La grève donc a traîné en longueur par rapport à certaines grèves de la faim et les papiers sont accordés à titre provisoire, mais ces titres provisoires deviendront définitifs en fait. Voilà. Donc grève popularisée par les comités de soutien, par le comité de soutien, la CFDT, des collectifs militants, ils ont posé la question de l'immigration début 73 à un moment où elle n'était pas perceptible aux yeux de tous, puis c'est plutôt dans l'été que c'est devenu perceptible. Dernière chose. Non, oui, presque. Les usines occupées. Alors, dans les usines occupées, à ce moment-là, on l'a dit, de jeunes ouvriers déclenchent des mouvements qui bloquent ou ralentissent la production de manière imprévue. On les appelle grève sauvage, grève thrombose, grève bouchon. On pourrait décortiquer ces mots précisément. Hein. Les directions d'entreprise font appel aux tribunaux pour obtenir des jugements en référé, y compris contre des délégués syndicaux, pour faire expulser donc, les occupants. Alors, c'est le cas à Cégédur, par exemple, chez Jacquemart, et à Peugeot-Saint-Étienne, dont je vais vous parler un peu plus longuement. D'abord parce que le conflit a été long, 44 jours de grève. Il a polarisé l'attention sur le plan local et aussi sur le plan national. Il a polarisé l'attention aussi dans l'ensemble du bassin stéphanois et provoqué un mouvement de solidarité sans précédent. Alors, quelques informations. L'usine Peugeot, c'est une grosse boîte, hein, 1127 salariés, 191 mensuels, cadre maîtrise employé, 836 ouvriers payés à l'heure. Je parle bien sûr de la situation en 73. Le 4 avril 73, donc, est déposé à la direction un cahier de revendications qui a été élaboré atelier par atelier à partir des presses, de l'atelier des presses et de la tôlerie, qui sont essentiellement des ateliers d'OS. Qui a été approuvé, c'était tout à fait impressionnant, par l'atelier d'usinage, qui lui est un atelier d'ouvriers professionnels. D'abord, qu'est-ce qu'il demandait ? Diminution des cadences et obtenir 1500 francs mensuels garantis pour tous, pour 40 heures de travail. Je crois que c'était à 43 heures à ce moment-là. Et une prime de fin d'année égale pour tous, des vêtements de travail. Pourquoi cette manière de procéder, atelier par atelier jusqu'à la direction ? Parce qu'en 72, il y avait une grève de soudeurs qui avait fait grève tout seul, qui a fait pareil, qui a fait un cahier de revendication dans leur atelier. Ils avaient fait grève tout seul et les autres n'avaient pas suivi. Donc là, ils sont allés beaucoup plus lentement, si je peux dire. Et quand les cahiers de revendication... Alors, pourquoi les OP? Parce que c'est intéressant. Pourquoi les OP se mettent du côté des OS pour, en fait, demander des revendications qui étaient égales, enfin, qui étaient égalité pour tous, alors qu'eux étaient plus payés que les OS? Eh bien, c'est parce qu'on avait créé des règleurs. Et que les règleurs qui étaient dans les ateliers d'ouvriers professionnels, si vous voulez, bloquaient la progression donc des salaires et des OP. Donc c'est la raison pour laquelle les OP se mettent sur leurs propres revendications. Là, les cahiers de revendications sont présentés aux syndicats et aux trois syndicats présents dans la boîte et adoptés lors d'une assemblée générale. L'occupation de l'usine est votée. Alors face à cela, la direction a une attitude très ferme, choisit l'épreuve de force. Elle refuse de prendre en compte les cahiers de revendication. Elle cite 8 délégués en référé. Le 7 avril, le tribunal ordonne l'évacuation des locaux, mais le préfet refuse de faire appliquer la décision par les forces de l'ordre. À ce moment-là, la direction fait un plan B avec la direction centrale de Peugeot. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la production est déjà organisée en flux tendu en 73, et déjà la production des autres entreprises Peugeot diminue. Enfin, il y a 50 unités de moins, par exemple, sur les 304 et les 504, si vous voulez, du fait de cette organisation en flux tendu, parce qu'il y a des pièces fabriquées par Saint-Étienne qui n'arrivent plus. Et donc, voilà. Et donc, le 10 avril, 7 ouvriers sont licenciés pour entrave à la liberté du travail. Et le 11 avril, le licenciement de 4 délégués est demandé au comité d'entreprise. Et la direction de Peugeot a préparé une intervention brutale d'un groupe d'hommes armés la nuit, qui était organisée par le général Février, responsable à Peugeot des opérations spéciales, qui a mobilisé dans ses différentes usines un groupe de 53 hommes ouvriers sûrs, dont un certain nombre d'immigrés. Par exemple, un des grièvement blessés est un Portugais venu de Sochaux, dans ce groupe de 53, comme quoi les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Hein. Et puis, on y a ajouté des membres recrutés dans une société d'intérim, anciens parents et anciens de l'OS, au total 70 hommes. Ils entrent par l'usine des Bennes-Marelles, qui va resservir deux fois dans le conflit. Ils passent par les Bennes-Marelles et la nuit, ils délogent vigoureusement, violemment, le piquet de grève qui était dans l'usine. Alors, c'est au petit matin. Il y avait des ouvriers non grévistes, 200, qui, quand ils voient les bagarres qui sont faites la nuit, refusent de rentrer. Bien que non grévistes, ils refusent de rentrer, vu la façon dont s'était comporté ce groupe qu'on a appelé les Katangais. Alors, je n'ai pas le temps, mais je voulais m'interroger sur d'où venait le Katangais, parce que Katangais, c'était une espèce de service d'ordre musclé qui avait été la Sorbonne en mai-juin 68, mais c'était surtout, je pense, le nom donné aux mercenaires du Congo qui avait été... donc, on avait donné en juin 68, mais bon, de toute façon, on n'a pas le temps. Et donc, une foule d'ouvriers venus de tout le bassin va constamment être présente devant l'usine, voulant aller récupérer les gens armés qui sont dans l'usine, les mercenaires armés. Et les délégués syndicaux s'efforcent de s'interposer entre les CRS et la foule. Vous pouvez voir sur Internet un reportage photo où on voit clairement tous les moments de ceci. Voilà. Alors, combien d'ouvriers sont venus? Les chiffres sont variables, entre 15 000 et 20 000. Mais ce chiffre est complètement aléatoire parce qu'il y a une circulation incessante toute la journée. Des gens venant de Londres, du JI, etc. C'était la plus grosse manifestation, on a dit, depuis très longtemps. Les heurts ont été violents. Il y a eu des bagarres très violentes. Le Portugais venant de Sochaux, grièvement blessé. Et pourquoi? Parce que des jeunes ouvriers sont aussi repassés par les Bennes-Marelles, eux aussi, et ils ont pris les Katangais, enfin ceux qu'on appelait les Katangais, par derrière. Alors, je dois finir, donc voilà. Ces gens-là, connus de la police, vont partir dans les fourgons de police un peu amochés, et ils sont amnistiés après l'élection de Giscard d'Estaing. Les négociations sont très longues. J'ai 2 minutes ou pas? Oui. Alors, les négociations sont très longues. La direction n'arrête pas de donner des préalables. Et finalement, elles aboutissent, dernier piquet de grève est mis en place le 18 mai 73 à 4h du matin. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? La déception est grande. Il y a une assemblée générale où la presse n'a pas été invitée, donc il y a des protestations dans la tribune Le Progrès, sur, mais ils savent quand même ce qui s'est passé. Et donc, les acquis sont minces, sauf une chose sur laquelle ils ne voulaient absolument pas bouger, c'est les sanctions. Donc il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de mise à pied, pas de mutation. Et les procédures engagées devant les prud'hommes doivent aller à leur terme. Le responsable CGT, M. Fournier, dit « La direction de Peugeot n'a pas pu imposer sa loi. Ce sont les tribunaux de la République qui jugeront. » Salaire et paiement des jours de grève, c'est une question très difficile. Très peu a été obtenu. Je ne vous donne pas le détail, mais bon, ça, simplement, là, ce sur quoi les grévistes ont discuté très longuement, parce que ça, ils ne voulaient pas l'accepter, c'est qu'on ne leur paye pas le 1er mai. Le 1er mai, c'était un jour chômé, férié, et là-dessus, ça a chopé vraiment. Enfin, le bilan dressé par les responsables syndicaux, on connaît, on voit tout, alors je n'ai pas le temps de vous les lire, hein, mais bon, les trois responsables syndicaux, avec des nuances, sont d'accord. Il est plutôt pessimiste, en disant « oui, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais il faut reprendre ». La reprise se fait dans l'unité. Il y a eu 12 voix contre, simplement, je précise, hein, contre l'accord. La reprise se fait dans l'unité le lendemain, derrière une banderole commune intersyndicale. Et tous les textes insistent sur cette unité qui a été préservée tant bien que mal au cours du conflit. Alors, je conclue. Donc, les répertoires d'action utilisés au printemps 73 sont conformes au régime de conflictualité des années 68 du fait des revendications mises en avant. Remise en cause des cadences, absence de qualification, voire déqualification pour les OS et les OP, avec une territorialisation du conflit sur l'atelier, sur le collectif primaire de travail. En plein conflit Peugeot, je prends quand même une seconde pour dire ça, la presse publie un sondage selon lequel 84% de la population de la région est favorable à un assouplissement de la législation sur l'avortement et une majorité se prononce pour l'extension de la pratique de la contraception. Il y avait une spécificité stéphanoise, c'est le GLACS, Groupe pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Pourquoi spécificité ? Parce qu'il était animé par des médecins, dont un certain nombre étaient proches du Parti communiste, par une responsable du PSU local, Huguette Bouchardeau, alors professeur de philosophie, et par des membres de la Ligue communiste. Donc vous voyez un attelage surprenant dans ces années 68. Si ce combat n'est pas relié au monde ouvrier organisé, de nombreuses ouvrières avaient recours au GLACS pour avorter. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on relève la même configuration militante que dans les comités de soutien des différents mouvements. Il faut préciser que les OS immigrés de chez Peugeot, qui étaient la plupart algériens et pour un grand nombre dans des mariages mixtes, n'ont pas, avec des Françaises donc, n'ont pas soutenu particulièrement les grévistes de la faim tunisien. Mais il y a bien eu au printemps 73 ce que j'appelle co-construction des luttes, mais il ne s'agit pas d'une convergence, comme l'écrivait la CFDT en 73, mais co-construction à l'intersection de plusieurs conflits qui sont le fait des comités de soutien, qui sont faits de militants syndicaux, essentiellement de la CFDT, de militants politiques du PSU, des militants des diverses organisations d'extrême gauche, et s'il faut souligner, avec une dimension générationnelle non négligeable, ce que Julie Pagis appelle la disponibilité biographique. Les jeunes sont omniprésents dans tous ces secteurs. Alors s'il n'est pas le 68 stéphanois, le printemps 73 appartient donc bien par son régime de contestation aux années 68. Merci.
Voilà, notre émission est terminée. Elle sera rediffusée ce soir, le 16 janvier à 19h, mais aussi dimanche 19 à 21h. Sur le site, vous pouvez avoir accès aux émissions précédentes ainsi qu'à l'actualité. Et notamment, nous vous invitons à surveiller ce qui va se passer le jeudi 23 janvier. Pour accéder à notre site, je vous rappelle l'adresse www.gremos.l'autre.net. Et notre prochaine émission, eh bien, elle sera dans un mois, jeudi 20 février. À bientôt.